Europe 1, 14h-15h.
Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui va vous raconter aujourd'hui la vie d'un grand acteur, populaire dans toutes les classes de la société. C'est Bourvil, à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée à Lille en ce moment. Bourvil, un comique universel, comme il n'en existe plus aujourd'hui, c'est la question qu'on se posera après notre récit pimenté d'archives Europe 1. À 14h30, les films de ma vie, et c'est Benoît Poulvord qui a accepté de nous répondre aujourd'hui. Alors quelle est sa scène de cinéma préférée, sa réplique culte ou la bande originale qui a marqué sa vie? Réponse tout à l'heure. Et puis à 14h40, notre tour de table des critiques. On débattra des films sortis en salle mercredi dernier avec au programme Antoinette dans les Cévennes, portée par Laure Calamy, l'une des stars de la série 10%. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Et puis J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximi. Voilà pour le programme, mais d'abord donc notre récit. Bourvil, le dernier acteur comique universel.
Europe 1. Le récit.
Bourvil, notre cousin, c'est ce que titre le journal L'Express quelques mois avant sa mort, qui va d'ailleurs endeuiller la France entière. André Rimbourg, de son vrai nom, était aimé par toutes les franges de la société, pour ses chansons évidemment.
La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité.
Mais aussi et surtout pour ses rôles et ses interprétations dans Le Cornio ou La Grande Vadrouille, par exemple, qui aujourd'hui encore signent de très belles audiences lors de leur rediffusion à la télévision. Même le général de Gaulle déclara « Bourvil est le seul comique qui me fasse rire ». Alors, comment expliquer cette unanimité ? Il faut d'abord revenir sur l'enfance de Bourvil. Né en juillet 1917, très jeune, André Rimbourg perd son papa de la grippe espagnole. Sa mère se remarie alors et part s'installer dans la petite ville de Bourvil, justement, en Normandie.
C'est un village normand, vous savez, qui se trouve à 8 km de la côte. Il y a 480 habitants. 481 quand j'y suis en vacances. C'est là que j'étais à l'école. Je connais tous les chemins, tous les petits sentiers. Et chaque arbre est un souvenir. Alors c'est pourquoi je suis toujours ému quand je vais là-bas, quoi.
Bourvil I2LE, qui existe encore aujourd'hui en Seine-Maritime, mais ne compte plus que, j'ai vérifié, 298 habitants. C'est là qu'André grandit, donc dans la ferme familiale. C'est un enfant sans histoire qui obtient son certificat d'études, mention très bien, et qui, à ses heures perdues, pousse déjà la chansonnette dans les kermesses.
J'apprenais un peu la musique, j'ai toujours aimé la musique, et puis à un moment, j'ai fait partie de la fanfare. Et je jouais de l'alto. Je travaillais ma partition. Ma mère me disait, tu nous casses la tête.
Mais c'est en imitant un certain Fernandel que Bourvil va trouver sa vocation. Artiste. Une imitation qui va même lui permettre de remporter un radio-crochet en 1938. Mais très vite, Bourvil va créer un personnage qui va devenir sa marque de fabrique. Un paysan un peu bené, mal fagoté et très inspiré d'anecdotes que lui ont raconté les paysans dans son enfance. Un personnage que l'on retrouvera dans la filmographie de Bourvil et qui explique sans doute une partie de sa popularité. Bourvil, qui se fait alors appeler Andrel, contraction d'André et Fernandel, son idole. Mais très vite, il trouve son pseudo, en hommage à son village dont on parlait, Bourvil. Et le succès va venir d'abord de la chanson avec les crayons.
Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est qui est triste.
Et d'autres chansons suivront, la tactique du gendarme pour ne citer qu'elle. En parallèle, Bourvil propose des sketchs qui sont diffusés à la radio et à la télévision. Il se forge alors une image populaire du type sympa, du copain un peu bébête mais drôle.
Je me suis rendu compte que lorsque le gros public a quelqu'un qui les fait rire, il se rue au guichet pour prendre cette part de rire pour, qui est comme une nourriture. Je crois qu'il faudrait, pour que les gens soient heureux, il faudrait qu'on puisse leur donner au moins un quart d'heure de rire, mais de bon rire par jour.
Le premier film populaire de Bourvil, c'est en 1947, qui se nomme d'ailleurs « Pas si bête », signé d'André Berthomieux. Il va lui offrir l'un des premiers rôles au cinéma, de nouveau celui d'un paysan un peu bené.
C'est bien que
j'ai. Oui, c'est votre neveu qui me fait rire. Oh, il est irrésistible.
Ah. Ah ben, on est tous comme ça dans la famille. On est fin, futé, spirituel. Très drôle.
Le film attire plus de 6 millions de spectateurs en salle, mais une partie du public paysan n'apprécie pas l'image que Bourvil renvoie de leur milieu. Lors d'une projection à Rouen, sur ses terres normandes, l'acteur se fait même siffler. Il comprend qu'il doit alors jouer autre chose, et celui qui déclarait faire gratuitement l'imbécile tourne notamment dans la traversée de Paris aux côtés de Jean Gabin. Il campe le chauffeur Martin, ce chauffeur de taxi au chômage sous l'occupation allemande.
Dis donc, tu sais qu'il m'a pas payé le janvier ?
Non, c'est pas possible. Il t'a pas payé, ce salaud-là ?
Ah non ?
Ah, ben, j'ai imaginé que je partagerais avec toi.
Tu me le proposerais, je refuserais.
Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas ?
Oh, puis merde, tiens.
Pour ce rôle, Bourvil recevra même le prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 1956. C'est l'époque où il inonde les écrans. La télévision avec ses sketchs, la radio donc avec ses chansons, et surtout le cinéma avec ses films. Il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois, ce sont des millions de spectateurs qui se déplacent en salle. Près de 12 pour Le Corneau ou pour Le Jour le plus long. Près de 10 pour Les Misérables. Et un record inégalé jusqu'en 2012 avec La Grande Vadrouille et ses 17 millions de tickets vendus.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Ah bon ?
Ah, ben là, ça va mieux.
Attendez-moi quand même, il faut que je m'y habitue.
Allons, 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 venez, bon sang.
Ah, les Allemands.
Bourvil a très vite compris une chose, il ne faut jamais se moquer de ses personnages, même quand on joue le président d'une association de lutte contre l'alcoolisme venue promouvoir une eau.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrochaneuse, oui.
Bourvil, qui a d'ailleurs officié ici même sur l'antenne d'Europe 1, on est en 1969 et autour de Robert Roca et Maurice Horg, il campe Émile Paillasson, un portier qui accueille les visiteurs au micro. Alors c'est vrai que Bourvil garde l'image du mec sympa, drôle, proche des gens, alors qu'à la même époque on raconte que Fernandel est odieux en coulisses et que De Funès n'est pas de la meilleure compagnie. Bourvil, ben, il parle comme monsieur tout le monde, y compris d'ailleurs quand il évoque sa femme en compagnie justement d'un certain Louis de Funès.
Dis-moi, est-ce que tu fais rire Jeanne, ta femme ?
Non, je ne crois pas.
Moi, je la fais plus rien non plus. Il y a tellement longtemps que je la connais aussi que je l'amuse plus. Je rattrape ça avec le charme.
Bourvil disait : le monde est peuplé de Bourvil. Ma chance, c'est qu'ils croient tous que je suis le seul. Et ça, on en discute dans un tout petit instant sur Europe 1 avec Pascal Delmotte, qui gère le patrimoine artistique de Bourvil. Il est aussi le commissaire de l'exposition Le Cinéma de Bourvil à Lille jusqu'au 4 octobre. On va d'abord se faire plaisir. Bourvil, à bicyclette dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au frais minois, à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour ? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit ? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez d'un raisonnement ? Coureur. Ah ben, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi, à bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À cyclibette, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
À bicyclette avec Bourvil dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Bourvil, on y revient dans un tout petit instant avec notre invité.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de Clap, votre émission cinéma, après vous avoir raconté une petite partie de la vie de Bourvil. Je voulais poursuivre notre réflexion avec Pascal Delmotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de l'exposition Le cinéma de Bourvil, qui est en ce moment à Lille, ça dure jusqu'au 4 octobre. Vous êtes aussi un vrai collectionneur, puisque vous possédez 7000 pièces autour de l'univers de Bourvil. Et puis vous avez écrit 2 livres, Bourvil, ça va, ils sont contents, et Bourvil, le ciné d'André, autant dire qu'on ne pouvait pas trouver plus spécialiste. D'abord, dites-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs comme Bourvil qui sont aimés aussi bien des classes populaires que du président de la République, on en parlait, ou que des intellectuels.
Non, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était déjà à part dans le monde du show business. Et je pense, c'est vrai qu'il n'y a pas, à part peut-être Danny Boone qui fait un peu l'unanimité, qui est quelque part pour moi le fils spirituel de Bourvil, à part lui, je ne vois personne d'autre.
C'était aussi une star dans les pays étrangers, Bourvil.
Oui, c'est-à-dire que Bourvil, l'anecdote, c'est par exemple au festival de Moscou en 1966, Bourvil était invité avec toute sa famille et se promenant dans les rues de Moscou, les gens le reconnaissaient et l'appelaient Fortuna, puisque Fortuna est un film qui avait excessivement bien marché en Russie, mais des films comme La Grande Vadrouille de Corniaux, le Cercle Rouge, Le Cerveau, même déjà à l'époque le Passe-Muraille, par exemple, a été tourné en français et en anglais. Il a fait l'objet d'une avant-première à Broadway. Mais tous les grands classiques sont sortis dans le monde entier et ont fait une belle carrière à l'étranger.
C'est en ça aussi que c'est peut-être l'un des derniers acteurs universels. C'est que, parce que Danny Boone, je ne suis pas certain que quand il se balade en Russie, il soit reconnu dans la rue.
Mais je ne sais pas, parce qu'il y a eu quand même eu quelques adaptations de Bienvenue chez les Ch'tis. Je ne sais pas s'il y en a eu une en Russie. Mais c'est vrai que il faut dire aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'avait pas les médias sociaux comme on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire que bon, les gens, pour sortir, avaient le théâtre, avaient la télévision, enfin, en restant chez eux, ou le cinéma. Donc, forcément, les acteurs étaient plus facilement reconnus en rue que maintenant.
Est-ce qu'il aurait eu, vous pensez, Bourvil, la même carrière aujourd'hui?
C'est très difficile à dire parce que à l'heure actuelle, on fait quand même beaucoup de films qui doivent rapporter de l'argent et ça, c'est un gros problème. À l'époque, bien entendu, les films devaient être rentables, mais je pense qu'on donnait plus la chance aux réalisateurs sans mettre une pression financière dans leur dos. C'était le contexte de l'époque. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un quand même qui aurait tiré son épingle du jeu parce que il a une universalité dans son jeu, il a cette humanité, c'est peut-être ça qui l'aurait desservi justement à l'heure actuelle, c'est peut-être d'être trop humain.
Et d'être trop gentil parce qu'on disait à l'époque, Fernandel n'avait pas forcément une très bonne image en dehors des plateaux, de Funès n'en parlons pas, Bourvil c'était le gars gentil dans les médias, dans la rue, dans les films.
Tout à fait. Vous savez, quand il est décédé, je ne sais plus quel journal avait titré le cousin de tous les Français est décédé. Et c'était vraiment ça. C'était quelqu'un, quand il arrivait sur un plateau, tout le monde était sur un pied d'égalité. Aussi bien la vedette du film, qui pouvait être Monsieur Gabin ou bien quelqu'un d'autre, que les techniciens du plus petit au plus grand. Et en plus, c'est quelqu'un, les pauses déjeuner, il les prenait avec les techniciens, il mettait une ambiance de feu, il n'arrêtait pas de raconter des blagues et tout ça a contribué à son image. C'était vraiment quelqu'un qui était à la ville comme à l'écran, c'est-à-dire d'une très grande simplicité.
Et le fait qu'il soit mort si jeune, sans dire qu'il était malade jusqu'au dernier moment, est-ce que vous pensez aussi que ça a peut-être participé à forger cette image et ce souvenir ?
Non, ça je ne pense pas parce que bon, Bourville est décédé à 53 ans. C'est vrai que c'est jeune, mais je suis persuadé que vous demandez à beaucoup de personnes l'âge auquel Bourville est décédé, ils ne sauront pas vous répondre. Je pense surtout que ce qui a fait que Bourville est toujours très présent maintenant, c'est justement ces comédies populaires qui sont régulièrement diffusées en télévision. Et je pense que vraiment c'est ça qui fait que qu'il est toujours aussi présent à l'heure actuelle. De plus, faut pas oublier non plus que Bourville est un chansonnier. Il a quand même interprété plus de 300 chansons. Vous demandez à un gendarme de chanter une chanson concernant son métier, il va vous chanter la tactique du gendarme. C'est le Tour de France actuellement, mais on entend à bicyclette. Donc tout ça fait que c'est tout cet ensemble qui fait que Bourville est toujours très présent dans la mémoire collective.
Et j'invite tous nos auditeurs à se rendre à l'exposition Le cinéma de Bourville, c'est au Festival Ciné-Comédie à Lille, parce que voilà, il y a plein de pièces que vous êtes allé piocher dans vos 7000 pièces, c'est ça, vous possédez autour de l'univers de Bourville ?
Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que j'ai la chance surtout et le bonheur de m'être vu confier par Dominique Rimbourg, par le fils aîné de Bourville, les archives de son père. Et donc ici, l'exposition, c'est une chronologie, c'est une balade. On commence à la naissance de Bourville, puis l'exposition est basée sur le cinéma, bien sûr. Donc on commence avec Pas si bête en 1946, jusqu'au mur de l'Atlantique en 1970. Et pour finir, je me suis permis de faire un hommage à Annie Cordy, de la collaboration entre Bourville et Annie Cordy, puisqu'ils ont joué deux films ensemble et deux opérettes et qu'ils sont restés amis tout au long de leur vie.
Et c'est donc à voir à Lille et c'est gratuit, je le dis. On peut aussi se replonger dans vos deux livres, Bourville, ça va, ils sont contents, et Bourville, le ciné d'André. Merci beaucoup Pascal Delmotte d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Avec grand plaisir.
Et nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap. Vous le savez désormais, à 7h6 le samedi, c'est l'heure de notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Benoît Poulvorde qui a accepté de nous répondre. Alors voilà, quel premier film l'a marqué au cinéma? Quel est son film honteux? Quelle bande originale de film il écoute régulièrement? Vous aurez toutes les réponses à ces questions dans un tout petit instant.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de Clap, votre émission cinéma. Vous connaissez le principe maintenant, tous les samedis vers 14h30. C'est l'heure des films de ma vie. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Monsieur Benoît Poulvorde. Bonjour Benoît.
Mathieu, bonjour Mathieu.
Votre meilleur souvenir en salle?
Mathieu, mon meilleur souvenir en salle, je sais que ça va paraître un peu enfantin, mais c'est déjà nostalgique, c'est la première fois que j'ai vu mon visage agrandi sur un écran. On avait fait un premier court-métrage quand j'étais très jeune, 23 ans, ça s'appelait Pas de C4 pour Daniel, et on avait fait des essais, et on nous avait laissé tester nos essais, qui étaient du 16 mm, à Kinépolis, qui était une des premières salles qui faisait des écrans aussi gigantesques, et j'ai vu mon visage en très très grand, et ça m'a bluffé.
Écoute petit, il vaut parfois mieux une franche camaraderie qu'un misérable petit mois de salaire.
C'est bonjour Daniel.
Allez, va chercher mes bagages.
C'est bonjour Daniel.
Et arrête de tout le temps dire bonjour.
Vous vous êtes dit c'est parti pour une longue carrière.
En aucun cas, non.
Votre premier souvenir en salle?
Alors si je vous parlais les moments les plus intenses en salle, Emmanuel. Donc, je vous jure que c'est vrai.
C'est vrai.
J'ai dû attendre 16 ans pour pouvoir aller voir Emmanuel. Il fallait attendre 10h30 parce que le cinéma ne passait les films pseudo-érotiques à partir de 10h30 du soir. J'ai dû attendre 16 ans pour aller voir Emmanuel. Et c'était extraordinaire.
Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mots chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu.
C'est ce qui vous a donné le goût du cinéma?
Ce qui m'a donné le goût de la Thaïlande.
Votre réalisatrice ou réalisateur préféré?
Ah, Jeanne Campion, réalisatrice. Jeanne Campion m'émeut à vie. Et réalisateur, je peux pas aimer un réalisateur à tout prix parce qu'on est capable de faire des merdes. Je pense qu'on n'aime pas un réalisateur, on aime un film fait par quelqu'un. C'est comme un rendez-vous, c'est comme un dessin. Je pense pas que Van Gogh, ben moi je suis pas un fan de Van Gogh, mais tu peux faire des trucs just, pas terribles. J'ai pas de truc préféré. Il y a des gens qui me touchent davantage, mais si c'est tout le temps le même, il fait tout le temps le même film. Parce que beaucoup te diront que c'est toujours le cas, mais j'ai pas de réalisateur préféré. Il y a des rendez-vous, par exemple, il y a des films de Chabrol que j'adore, et il y a des films de Chabrol que je déteste. Je pense que c'est des rendez-vous. Le cinéma, c'est un rendez-vous avec un type qui est au bon moment, et il touche à ce moment-là. Et c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que tu fais un truc qui plaît pas, de toute façon, c'est que mon avis. Hein. Mais je dirais pas préféré, sinon ça voudrait dire que j'aime tout ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
La plus dingue? Dans un festival qui s'appelait le festival du film fantastique à Bruxelles. Et ils ont un truc qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont 1000 dans la salle et chaque, ils connaissent tous les codes des films. Et alors ils répètent, quand les gens vont s'embrasser, il faut... Et puis quand ils doivent pas ouvrir une porte, il faut... Non ! Et la salle fait de l'interactivité. C'est le souvenir, ça m'a... Bon, je vais très peu en salle de cinéma, je dois dire la vérité.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
C'est Raging Bull. C'est Raging Bull quand il... Oh ouais, ça, j'en pleurais. C'est quand il est énorme avec son cigare, et il répète devant le miroir, et on sent qu'il est heureux. Tu vois, ce type s'est battu toute sa vie pour essayer de trouver un équilibre. Il a été le plus grand champion de boxe. Bon. Et là, il est très gros, il a son cigare. Et pour la première fois, il est tranquille avec sa conscience. Cette scène me touche à un point. Mais c'est une rédemption. Alors qu'on devrait tous dire, putain, il pèse 300 kilos. Il est énorme, il finit dans un pauvre bar en train de raconter ses anecdotes de merde. Et pourtant, il est calme et il est heureux. Il est dans la quiétude de sa conscience. Ouais, ça m'émeut. Ouais.
Tout le monde n'a pas cette chance. Comme le type là, que Marlon Brando a joué dans Sur les quais. Il en voulait comme une bête et puis il a pris la pente savonnée. Vous rappelez cette scène sur la banquette de la voiture avec son frère Charlie, un petit pouce mégot de la mafia? Eh ben ça donnait à peu près ça. Ouais, champion, d'emblée. Je suis le patron.
Le chef-d'œuvre que vous détestez?
Non, je suis très en colère sur les films de Clint Eastwood.
Pourquoi?
Je trouve pas que ce type mérite autant d'admiration. Je trouve qu'il fait des films extrêmement âgés. Limite, je parle même pas de l'esprit qui s'en dégage, mais je vois pas où, pourquoi on dit que Clint Eastwood est un génie. Je vois pas en quoi il est génial. Il est très beau. Je pense qu'il était meilleur acteur que réalisateur.
Il n'y a aucun film de Clint Eastwood qui trouve grâce à vos yeux?
Si, un seul. Avec un enfant et un prisonnier, avec Kevin Costner. Ouais. Qui est quand même l'acteur le plus beau de la Terre. Mais je l'aime bien parce qu'il y a un hélicoptère à la faille, des billets qui s'envolent. C'est un plan que j'aime bien. Mais sinon, non, je trouve que c'est c'est surévalué.
Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur?
Alors, il dort le gros con. Bah, il dormira mieux que ce que je vais lui mettre dans la gueule.
De quel film?
Ah, les tontons flags.
Évidemment.
Mais c'est la manière de dire. Alors, il dort le gros con.
Bah, il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Votre dernier film vu en salle, tiens d'ailleurs?
Ça doit être un de mes navets.
Je suis obligé de vous demander lequel.
Bah si, je vais te le dire. Hein. Ah bah c'est Le Grand Bain. C'est le dernier film que j'ai vu.
C'est pas un navet?
Non, c'est pas un navet. Non, pas du tout. Mais je ne supporte pas de me regarder, donc je ne critique pas le film, je me critique moi. Et je trouve toujours qu'il faudrait... garder tout ce qu'il y a autour et m'enlever.
Même après autant de films, vous arrivez...
Je ne m'habituerai jamais à me regarder. Jamais.
Et pourquoi?
Je ne m'aime pas. Je trouve que je joue mal, que je trouve que je fais tâche. J'ai l'impression d'être un imposteur. Non. Je n'ai aucun rapport à moi. Pourtant, je suis très égocentrique, très mégalo. Donc, je n'ai aucune fausse modestie. Donc, j'ai des tableaux de moi. Donc ça n'a rien à voir avec une forme de modestie. Mais je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas au cinéma. C'est un paradoxe. C'est complètement... Et c'est en aucun cas. À mon âge, j'ai plus aucune forme de coquetterie. Mais je ne m'aime pas. J'ai dû... Quand chaque fois je fais la post-synchro, donc je vais essayer d'expliquer pour nos auditeurs, mais la post-synchro, je suis obligé de refaire des voix qui ont été...
Et vous avez votre image face à vous.
Et je me vois, mais c'est une... C'est une torture pour moi.
Le film qui vous a fait le plus rire?
De Funès.
Tous?
De Funès, c'est même pas un film, c'est la personne, c'est lui. C'est lui qui apparaît dans un plan.
Il a des héritiers aujourd'hui?
Clavier. Je pense que c'est l'enfant chéri de Funès, alors qu'il ne n'imite pas De Funès. Mais j'ai tourné avec Christian, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, il a ce truc que peu de gens ont, c'est assez rare au monde. Il a l'instinct comique, c'est inscrit dans ses gènes.
Azur, je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse.
Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse?
Ça aide. Allez, viens, on va te baigner.
Aïe! Oh, je me suis fait un mal de chien.
Bah évidemment, c'est une décharge à ordures ton truc, je suis sûr qu'il y a des rats.
Non, il n'y a pas de rats. Où tu vas?
Pauvre con.
Bah, pauvre con. Bah t'es malade ou quoi? Bah, allez, sois pas ridicule, elle est vachement grosse. Ah, il y a une bête! Il y a une bête! Attends-moi, il y a une bête!
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Mais qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami? Ah, les Demoiselles de Rochefort, non? Si, je m'en prendrais les Demoiselles de Rochefort.
Et le film que conseillerait votre pire ennemi?
Oh, si, je sais. Si. Le Joker.
Pourquoi?
Parce que je pense que c'est le début d'une société qui va crever, qui est en train de mourir. Ce film m'a terrorisé. Et il m'a... Pas parce que... C'est pas le sujet qui m'angoisse. C'est l'utilisation qu'on fait de l'angoisse. Et je pense que c'est un des films les plus dangereux. Alors, je m'en fous, c'est très bien. Je m'en fous, je parle pas de la... Vous m'avez demandé, qu'est-ce que je conseillerais à mon pire ennemi? Allez voir le Joker, vous allez voir. C'est un vrai film sur la dépression, sur le monde qui va mal. C'est faux. C'est absolument faux. C'est un film d'une Amérique qui va très bien, qui se porte très bien, et qui utilise les choses les plus terribles. Il ne soigne en rien. Il légitime. Et c'est pas du tout moral. Hein. Et ce qui est affreux, c'est que tout est mis au service... Le talent, le génie de l'acteur, la mise en scène, elle est assez belle. Hein. Mais je trouve que c'est ce qui est le plus empoisonné. Si j'étais sur des livres, des films extrêmement dangereux, moi je les trouve très dangereux. C'est légitimer la dépression, il n'y a pas de traitement.
Est-ce que c'est moi? C'est de plus en plus la folie d'or.
La situation est tendue, oui. Les gens sont désemparés. Ils doivent lutter, trouver du travail. Les temps sont durs. Et vous? Ça vous fait quoi de devoir venir ici? Ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un?
Je crois que quand j'étais interné à l'hôpital, j'étais mieux.
Ça m'angoisse. C'est très américain. C'est ce qui va nous arriver dans la gueule, nous, en Europe, dans 2 ans. Légitimer une colère plutôt que d'y réfléchir.
Merci beaucoup.
Ah, merci à toi
d'être venu dans cette émission.
C'était très émouvant. Tu as presque fait chialer.
Merci, bon à vouloir.
Tu es en train de me livrer comme un enfant.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et c'est l'heure maintenant de débattre des films sortis en salle mercredi dernier. On a un beau programme aujourd'hui d'ailleurs, avec autour de la table Thierry Chaise du magazine Première. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu.
Et Mehdi Omaïs du journal des femmes. Bonjour mon cher Mehdi.
Bonjour Mathieu.
Alors au programme messieurs aujourd'hui, la comédie Antoinette dans les Cévennes qui offre son premier grand rôle à Laure Calamy. On débattra aussi du nouveau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec d'ailleurs une presse dithyrambique. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximy, vous savez, adapté de son émission J'irai dormir chez vous. Mais d'abord donc, Antoinette dans les Cévennes.
Elle est où ta femme?
J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Tous les trois?
Non, pas toi, nous trois, avec Alice.
Oh, Alice! Ça alors?
Ça alors, c'est extraordinaire.
Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain.
Laure Calamy, qui est donc Antoinette, institutrice, qui a la bonne idée d'être la maîtresse du papa d'une de ses élèves. Il s'appelle Vladimir, il est joué par Benjamin Lavergne. Et depuis des mois, il lui promet une semaine de vacances ensemble. Mais à la veille de ce grand départ, Vladimir lui annonce qu'en fait, il part avec sa femme et sa fille marcher dans les Cévennes. Et ben ni une ni deux, Antoinette leur emboîte le pas, aidée d'un âne qui s'appelle Patrick, qui va l'accompagner sur les traces de Stevenson et de son livre « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». Cet âne qui, évidemment, va devenir bien plus qu'un compagnon de randonnée. Est-ce que cette comédie vous a convaincu?
Très beau film, très sympathique, qui mérite beaucoup et très très bien interprété par la vedette principale que je ne connaissais pas.
Non seulement je la trouve formidable, mais tout le scénario je le trouve vraiment bien. Quoi. C'est très frais et c'est très intelligent.
J'ai adoré et je l'ai vu dimanche soir déjà. Et je suis revenue.
Inattendu, drôle et poétique.
J'ai beaucoup, beaucoup ri.
Toute la partie randonnée, quand elle se trouve avec son âne, en fait, et qu'elle lui parle comme à un homme, elle est très touchante.
Il y a des beaux paysages, l'histoire elle est amusante. Bon, c'est pas le film du siècle, mais c'est sympa.
Très émouvant.
On a adoré, oui. Ça nous a donné envie de le faire une balade dans les Cévennes avec un âne et avec nos filles.
Alors Thierry Chaise, le public, visiblement, a été emballé. Et vous?
Ah, moi aussi. Ah. Moi aussi. Je trouve que c'est un des scénarios les plus intelligents de l'année. Alors Corinne Vidal, ça fait 20 ans qu'elle n'avait
pas fait
qu'elle
n'avait rien fait. Ouais.
Elle revient avec une histoire qui lui est en partie personnelle. Ce que je trouve formidable, c'est que ça démarre. On se dit, ah ben d'accord, c'est la sempiternelle histoire. La maîtresse, la femme, l'amant. Et puis ça, ça va s'arrêter. On ne va pas divulgâcher, comme on dit. Mais au bout d'une demi-heure, il y a une scène qui règle ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va donc se passer? Et je trouve que c'est un portrait de femme incroyablement écrit. Justement, ce n'est pas le portrait d'une femme qui est en quête d'un homme. C'est une femme qui est en quête d'elle-même. Et d'arriver à faire ça à travers de la comédie, beaucoup d'émotions, des personnages secondaires formidables, il y a une qualité qui est dingue. Et puis, c'est un grand bonheur de voir Laure Calamy dans un grand rôle.
Laure Calamy, je précise, qui joue notamment dans la série 10%, que les gens maintenant connaissent bien.
Et qui fait plein de second rôles. Mais sauf que quand on a un premier rôle, on peut exprimer autre chose que sa nature, qui est déjà formidable. Et là, je trouve qu'elle décroche la timbale, comme on dit.
Bon, complètement emballé, Thierry Chaise. Médio Maïs, vous souscrivez ?
Ah, je souscris totalement. Et c'est un film qui arrive à point nommé après le confinement, puisque en fait, c'est rare au cinéma, surtout en France, qu'on montre les grands espaces, les beaux espaces un peu vides. Et là, en fait, on a cette héroïne, enfin, j'ai envie de dire, parce que Laure Calamy qui campe un premier rôle, c'est juste un cadeau pour le cinéma français, parce qu'elle est géniale en même temps de pathétique et de drôlerie. Mmh. Ce qui est génial, c'est qu'elle n'hésite pas à épouser la trajectoire un peu pathétique de ce personnage. D'ailleurs, même Caroline Vignal voulait appeler ce film Pauvre Meuf. Donc en fait, elles ont convergé vers ce personnage. Et d'ailleurs, Laure Calamy, lorsqu'elle a reçu le scénario, elle pensait même que Caroline Vignal la connaissait tant elle a trouvé des échos dans ce personnage. Et oui, et puis en fait, c'est aujourd'hui, on prend plus le temps, on est hyper connecté, on passe notre journée à scroller, et en fait cette balade, elle est enchanteresse, elle fait du bien, et finalement c'est vrai que c'est un film d'amour, mais qui va graduellement se déliter au profit d'un buddy movie, parce que Laure Calamy, son personnage, va vaquer avec cette Anne et va aller à la rencontre d'elle-même, et en fait c'est ça qui est beau, c'est qu'on part d'un point A et on arrive vers un point B,
et faire le deuil de ses anciennes relations, de tous ces amours perdus, et...
Absolument.
Et surtout, je sais pas vous, mais quand on termine la vision du film, moi j'avais qu'une envie, c'était de réserver l'été prochain, de louer mon petit âne et de partir moi aussi sur la route de Stevenson dans les Cévennes.
C'est là qu'on vous retrouvera. Vos fans, vous serez là.
Et vu ma passion pour la randonnée, ça prouve que le film est vraiment très bien fait. Voilà, Antoinette dans les Cévennes, il faut bien le dire, la presse est assez unanime cette semaine. Allez découvrir Laure Calamy au cinéma. C'est vraiment une belle occasion de découvrir toutes les facettes de cette actrice. Clap. Alors, deuxième film dont on débat aujourd'hui, là aussi il y a une très très bonne presse, on va voir si vous en êtes d'accord. C'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, signé Emmanuel Mouret.
Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant, ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues.
Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre?
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
Alors Daphné, c'est Camélia Jordana, est enceinte de 3 mois, elle se repose à la campagne, son compagnon François, Vincent McCain dans le film, doit s'absenter quelques jours pour son travail, alors que débarque son cousin, qui s'appelle Maxime, il est joué par Nils Schneider. Et pendant de longues journées, je ne vais pas trop vous en dire, mais Daphné et Maxime vont parler d'amour, de leurs histoires personnelles, de leurs déceptions, de leurs renoncements, de leurs joies, et on va suivre tout ça grâce à des flashbacks. Alors ça peut faire un petit peu vieillot comme ça quand on y pense, mais ce n'est pas du tout le cas dans ce film. C'est une sorte finalement de longue digression, bavarde sur l'amour. Est-ce que vous avez été emporté ?
Je suis une grande fan des films d'Emmanuel Mouret. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans les précédents, avec en plus une saveur différente, très moderne.
Au début, je trouvais ça très très lent. Jouer par moments un petit peu à la Romère, ça m'agaçait. Finalement, l'histoire est intéressante, les personnages sont sympathiques.
J'ai adoré, effectivement, un langage des mots extraordinaire. C'est un film qu'on ne voit plus beaucoup, quoi.
C'est un film qui donne envie d'être amoureux, je pense.
Faites attention, parce que dans ce film-là, dès qu'on fait une rencontre, on tombe amoureux.
Donc du coup, vous allez être prudent ?
C'est peut-être à vous d'être prudente, parce qu'on pourrait.
Médio Maïs, je me tourne vers vous, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait... Est-ce que ça vous a donné envie de tomber amoureux ?
Ah mais carrément. J'étais déjà amoureux du cinéma à la base, hein, sinon je serais pas là. Mais oui, c'est Emmanuel Mouret, c'est finalement un cadeau pour le cinéma français parce que c'est le chantre du marivaudage et c'est celui qui peut-être aujourd'hui interroge le mieux le sentiment amoureux sans jamais se poser comme celui qui juge ses personnages. Ces personnages, ils ont le droit de fauter, ils ont le droit de se tromper. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'il leur donne de l'espace sur le plan parce que c'est le mot qui dicte le mouvement dans ces ses films.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose
c'est
qui est extraordinaire.
C'est le dialogue avant l'action.
Évidemment. Et en fait, c'est un de ces cinéastes qui met en scène la parole. Et la parole, elle est magnifique. Et on peut penser que peut-être que les comédiens improvisent, mais tout est réalisé au cordeau, tout en leur laissant la place d'exister sur les plans. Et voilà, et on a cette écriture en entonnoir, parce que comme vous l'avez dit, ça commence par deux personnages, Niels Schneider et Camélia Giordana, mais qui vont faire apparaître au fur et à mesure plein d'autres personnages qui vont s'agréger à un grand tableau sur l'inconstance de l'amour. Et c'est pas grave d'être inconstant, c'est ce que nous dit ce film. On s'en fout si jamais on se trompe, si jamais même on est lâche. Pourquoi juger les personnages ? Il n'est jamais dans le jugement, Emmanuel Mouret, c'est ce que j'aime dans ce film.
Thierry Chaise, parce que je précise, à la limite, le seul petit reproche que certains peuvent faire à ce film, c'est de dire que c'est une langue très parlée, un peu ancienne, ça ne fait pas très dialogue moderne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et ben c'est ça qui est formidable. C'est en même temps, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement d'un travail de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'Emmanuel Mouret fait du cinéma, mais on se dit, il va encore aller plus loin. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à chaque film, on dit, c'est le meilleur film d'Emmanuel Mouret. Le dernier, c'était Mademoiselle de Jonquière. Je trouve qu'il repousse ses limites. Oui, cette langue, elle peut avoir un petit côté désuet, mais elle est tellement belle et jouée par des interprètes venant de tellement de familles différentes. Niels Schneider, Camélia Giordana, Julia Piaton. On a vu jusque-là dans les comédies plutôt populaires, mais c'était Émilie Dequen. Il y a vraiment plein de gens. Et d'un seul coup, c'est des gens qu'on n'a jamais entendus parler comme ça. C'est des bons comédiens, on les a jamais entendus parler comme ça. Et je trouve qu'il y a dans son film un petit côté polar, parce qu'une enquête quasiment à la Agatha Christie de qui a couché avec qui et comment, c'est extrêmement ludique et jamais prétentieux. Et voilà, lorsque le patron des cinémas français, des exploitants, pleure qu'il n'y ait pas de film américain, il devrait saluer, et notamment cette semaine, la qualité des films français qui sortent et des distributeurs qui prennent le risque de les sortir à ce moment-là. C'est une superbe semaine pour le cinéma français et Mouret en est le parfait étendard.
Mehdi, si on doit convaincre nos auditeurs d'aller voir ce film en un mot.
En un mot, je pense que je vais reprendre le mot de Thierry, c'est ludique. C'est ludique,
c'est
on s'y amuse beaucoup.
C'est l'amour ludique.
Mais avec un côté aussi déchirant, parce qu'il y a un fond quand même qui est... C'est peut-être le plus grave de tous les films d'Emmanuel Mouret.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, signé donc Emmanuel Mouret. Clap. Et dernier film de notre tour de table des critiques aujourd'hui, alors là c'est un petit peu plus mitigé dans la presse, J'irai mourir dans les Carpates, vous savez c'est dérivé de l'émission d'Antoine de Maximy, J'irai dormir chez vous.
Antoine de Maximy, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates.
Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine.
Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes.
Il manque de cassettes ?
C'est peut-être Antoine qui les a perdues.
Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous ?
Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens.
Qu'est-ce que c'est que ces tarés ?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà.
Alors vous connaissez peut-être cette émission, J'irai dormir chez vous, dans laquelle il se balade depuis 2005 avec des caméras fixées sur lui à travers le monde. Il va dormir chez les habitants, chez les locaux. Alors là, en fait, il explique qu'au début du film, Antoine de Maximy s'être toujours demandé ce qu'il adviendrait s'il disparaissait en plein voyage. Bah, c'est le point de départ du film qui est raconté du point de vue de sa monteuse, qui elle est à Paris, elle est jouée par Alice Paul. Et on la suit donc en train de dérocher les petites cassettes, en train de les visionner. Cassettes qu'elle a récupérées dans le sac d'Antoine de Maximy, qui lui a disparu lors d'un accident de la route. Sauf que, il manque... deux cassettes, un début du thriller. Est-ce que ce thriller vous a convaincu ?
J'ai trouvé que c'était parfait. C'était sympathique, très bien mené, et une bonne histoire.
J'ai bien apprécié, puis en plus j'aime bien Antoine de Maximy. Je l'ai trouvé original et puis très, très agréable.
Toujours aussi sympa, il a de très bonnes idées et en fait on s'ennuie pas du tout.
C'est pas le film de l'année. Hein. Sinon c'est bien joué, mais bon, voilà quoi, c'est un peu gnangnan quand même.
La fin, avec la photo, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose pour qu'il se rapproche et c'est super. On espère qu'il va en refaire un autre.
Alors messieurs, J'irai mourir dans les Carpates. Thierry Chaise, vous me regardez là, je connais votre petit air.
Ah oui, ouais. Non, mais moi je ne suis pas très fan à la base. Donc au départ, j'étais très, très heureux de ce film en me disant, bah, tiens, il a disparu, on va voir un film sans lui. Bon, ça n'est pas le cas. Blague mise à part, je trouve qu'il y a deux films en un en fait dans ce film. Il y a la partie presque Blair Witch Project, puisque le principe de Antoine de Maximy, c'est qu'il a deux caméras sur lui, l'une où il se filme lui, l'autre où il filme les gens. Et donc, à travers ces cassettes, on se dit, tiens, il y a un côté fantastique qui me plaît bien. Et puis, il y a toute la partie en France, où donc là, il faut bien en passer par là, en effet, scénaristiquement, puisque c'est la monteuse qui vérifie. Là, c'est platement filmé, c'est des scènes interminables.
Ah, c'est un peu long, oui.
Et on se dit, mais... pourquoi, en fait, n'avoir pas été plus radical et aller suivre, même si ça m'aurait fait souffrir, Antoine de Maximy de A à Z. Voilà.
Médio Maïs.
Je vais un peu faire un décalque de ce que Thierry a dit. Je suis absolument d'accord. Je pense que... il fallait l'audace, cette audace de faire un found footage de A à Z, le principe de la caméra retrouvée. Moi, j'avais moi, contrairement à Thierry, je suis extrêmement fan.
J'aime bien l'émission.
Voilà, j'aime bien l'émission, j'aime bien ses chemises rouges, j'aime bien cette façon de s'inviter chez les gens. Et j'ai retrouvé toute cette énergie des émissions dans le film. J'avais envie d'aller plus loin. Mais effectivement, à partir du moment où on quitte les rushs de son épopée dans les Carpates, bon, il faut dire que la peinture qui fait des habitants des Carpates n'est pas très reluisante.
C'est terrible, hein. Franchement, j'habiterais tous des alcoolos.
Dans les Carpates, j'aiguiserais mes canines pour me mordre. mais en tout cas, je suis d'accord parce que toutes les scènes de dérochage d'Alice Paul et Max Boublil, ça ne marche pas.
Boublil, il faut préciser, c'est le flic dont elle tombe amoureuse et qui lui enquête sur la disparition d'Antoine de Maximi.
Exactement. Et puis alors, même s'ils mettent plein de bonne volonté, ça ne marche pas. En fait, il y a une discordance, une dissonance entre la partie parisienne et la partie des Carpates. Voilà. Donc, j'aurais préféré un found footage massif et franc.
Et puis, c'est pas très beau. Alors, c'est pas que les Carpates soient moches, mais en tout cas, les films, d'une façon, ça donne pas envie d'y aller. Hein.
Non, ça, c'est le contraire des Cévennes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vous retrouvera. Donc, dans les Cévennes, pas forcément dans les Carpates l'été prochain. C'est une deuxième info très importante de cette émission.
Et effectivement, vaut mieux pas que le film soit montré là-bas parce que vu le portrait.
Et d'ailleurs, il passe devant le château de Vlad, alias Dracula, et il ne s'y arrête même pas. D'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé qu'il y rentre.
Bon, voilà. J'irai mourir dans les Carpates, signé Antoine de Maximi. On a aussi parlé du nouveau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, sans vous le conseiller chaudement. Et puis, la comédie de la semaine, Antoinette dans les Cévennes, qui offre enfin son premier grand rôle au cinéma, alors Calamy. Voilà, vous avez un beau programme de cinéma. Allez dans les salles. Merci beaucoup, Médiomaïs, qu'on lit régulièrement sur le Journal des Femmes.
Merci, Mathieu.
.fr.com, je sais jamais.
.fr.
Merci beaucoup, Thierry Chaise. Première, je redonne pas la une, quoique, allez, je la redonne. Je l'avais donnée il y a 15 jours, consacrée à Alexandre Astier et Kaamelott, qu'on attend dans les salles françaises. Merci à Nicolas Baudin qui réalise l'émission, Marjorie Adelson qui la prépare et qui va recueillir vos petites impressions à la sortie des salles. Et rendez-vous la semaine prochaine, 14h-15h sur Europe 1 pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Europe 1.